Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec les deux Fred. Fred Weiss, Fred Le Canu, Denis Charvet et Simon Dutin, après une première heure où on a pu faire un peu plus le profil de Fred Weiss.
Oui, voilà. On m'a rappelé Schumann.
On a appris un nombre de choses. Ouais.
Ouais. Schumann, rêveur.
Ouais.
Et Marseillais.
Ouais.
Ambitieux.
Alors qu'on a
fragile.
Appris, on a appris que Simon Dutin, en fait, devait plutôt être à la grande librairie, oui. Compris, plutôt que dans les grandes gueules du sport.
Ou dans le jeu Les Traîtres aussi.
Nous rappelons les 15 et 17 au bac français de notre ami Simon.
Bien sûr, ouais,
hors taxe.
Ouais. Fort, fort, très très fort. Moi, je vous rappelle que je vous fais gagner des places, hein, voilà, tout simplement, ce matin, pour le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, France-Azerbaïdjan, hein, vendredi 10 octobre à 20h45, bah, c'est la semaine prochaine, au Parc des Princes. Pour remporter vos deux places pour France-Azerbaïdjan, envoyez France. FRANCE, s'il vous plaît, au 732-16 France, au 732-16. Dans un instant, vous allez prendre votre zapette et dire à nos auditeurs ce qu'il ne faut absolument pas manquer ce week-end. Mais d'abord, le rugby, comme on le connaît aujourd'hui, celui de nos territoires, peut-il disparaître ?
RMC, le règne des GG.
La planète Ovalie a été traversée par plusieurs sujets cette semaine relatifs à son existence, ou à minima à son évolution. Le projet R360, une super ligue rebelle imaginée par des anglo-saxons pour créer, selon eux, une version plus excitante du rugby pour conquérir une nouvelle génération de fans. Ce projet, s'il va au bout, choquera avec notre top 14, un rugby des clubs en France, critiqué de certaine façon par Antoine Dupont pour ses règles du salary cap attachées aux droits d'image. C'était cette semaine. Les GG, je vous pose la question. Projet de Super League, remise en cause du salary cap. Le rugby est-il obligé de faire sa révolution ? J'ai deux noms, Simon Dutin, Denis Charvet. J'ai deux oui, les deux Fred, Fred Weiss et Fred Le Canu. Sur le compte X des grandes gueules du sport, c'est très partagé. Vous êtes 51% à dire non, le rugby ne doit pas faire sa révolution. Donc pour l'instant, Denis et Simon, vous faites la course en tête. Envoyez vos messages sur le WhatsApp au 06 12 424 424 et on vous attend au 32-16. Avant d'en débattre, c'est un sujet très complexe. Il faut d'abord tout comprendre et pour tout comprendre, on a le professeur, pour ne pas dire le chef,
le patron,
Wilfried Templier qui est avec nous. Salut Will.
Salut les enfants.
Salut, oui. Messire.
Salut les kids. Bon, on va essayer de faire quelque chose de très pédagogique. On a parlé beaucoup de choses là en préambule. Déjà, le projet R360, c'est quoi ?
Alors c'est un projet de ligue dissidente, on va dire, hein, lancé par des Anglais, dont l'ancien international Mike Tyndall, qui veut recruter, on va dire, les meilleurs joueurs du monde, les payer très cher, et les répartir dans 8 équipes masculines et 4 féminines, des équipes basées à Londres, Miami, Tokyo, Dubaï, Boston, à Lisbonne ou Madrid, qui joueraient dans des grands stades. On parle du Camp Nou, on parle de Tottenham, de Los Angeles. L'actionnaire de ce projet viendrait des Émirats Arabes Unis et vendrait chaque franchise 30 millions d'euros avec un objectif d'une première saison lancée entre avril et septembre 2027.
Est-ce que le projet, celui que tu nous présentes là, a des chances d'aboutir et est-ce que des joueurs français sont intéressés ?
On se dit quand même qu'il devrait avoir beaucoup de mal à recruter les meilleurs joueurs de la planète dont ce projet a besoin pour exister, parce que les fédérations ont déjà menacé les joueurs qui seraient tentés en expliquant qu'ils ne seraient plus éligibles aux équipes nationales respectives. Ce projet a besoin de l'aval de World Rugby aussi, qu'il n'a pas pour le moment. Pour bénéficier de structures, on pense notamment tout simplement les arbitres de haut niveau. Est-ce que des joueurs sont intéressés ? Peut-être, mais quels joueurs ? Dans son document interne, le R360 utilise l'image d'Antoine Dupont, mais son entourage nous a indiqué que le capitaine des Bleus n'avait rien à voir avec ce projet. Enfin, beaucoup de présidents de Top 14 nous ont indiqué que c'était un non-sujet, je cite, un non-sujet, qu'ils en parlaient peu entre eux et encore moins avec les joueurs.
Alors Antoine Dupont, tu en as parlé il y a quelques instants, lui, il a poussé un petit coup de gueule cette semaine sur l'encadrement de la masse salariale, le salary cap et en tout cas les droits à l'image qui sont adossés avec. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce que dans cette période où le top 14 a le vent en poupe économiquement, affluence et téléspectateurs toujours en hausse notamment, un joueur de rugby du top 14 peut avoir des sponsors personnels, mais il ne faut pas que ce sponsor soit aussi un partenaire de son club. Sans quoi, eh bien, cette rétribution est prise en compte dans la masse salariale de l'équipe, qui est, vous le savez maintenant, encadrée par un salary cap et doit pas dépasser 10,7 millions d'euros. Ça peut donc restreindre ses indemnités. Ça vient du fait que par le passé, certains présidents ont déguisé des salaires avec des sommes payées par des sponsors ou des avantages en nature, bien loin des circuits officiels, hein, vous comprenez. Tout ça pour contourner le salary cap. Je te donne un moindre salaire, mais tu vas t'y retrouver sur un compte à l'étranger avec une jolie maison en Afrique du Sud, par exemple. Ouais. Vous avez compris, on baisse le salaire, on gonfle le partenariat. La Ligue nationale de rugby évoque cette semaine un principe de transparence. Il y a beaucoup plus de contrôle aujourd'hui, notamment sur le patrimoine des joueurs. Donc, quand ces joueurs, d'un autre côté, font tout de même tourner cette machine, hein, ce sont eux les ambassadeurs de ce sport, eh bien, ils se disent qu'ils doivent optimiser en plus leur courte carrière. Et c'est un manque à gagner pour eux, même si là, on parle surtout des internationaux.
Merci, Will. C'était parfaitement clair. Reste avec nous.
Clairement. Il y a eu quelques accrochages.
Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Denis.
Genre, c'est le chef.
Denis, pas toi.
Qu'est-ce que tu cherches, Denis?
t'avais avalé.
Je l'ai dit hier au Moscato Show. Je me rends compte parce que Denis se rigole, rifane, bien sûr, comme son copain Moscato. Je suis un petit peu malade. Donc, je voilà. M'accroche pour faire sa l'antenne et monsieur arrive comme ça.
Non, voilà. Il est 10h14.
Je suis taquin, là, tu sais très bien.
C'est le verbe. Le verbe
j'attends ta moindre saucisse, Denis.
Voilà, le verbe rifané a été balancé à l'antenne. Le rugby doit-il faire sa révolution? Voilà, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, Wilfried vient nous en parler. C'est vrai qu'on sent qu'il y a plein de sujets qui tendent à remettre en cause peut-être le système rugby comme on le connaît actuellement. Tiens, vous partez de derrière pour l'instant dans le sondage. Un petit point. Fred, le rugby doit faire sa révolution?
Alors, sa révolution, je ne sais pas, mais moi, son évolution. Ah, la révolution, quand on entend le R360, évidemment que moi, ça me fait peur, parce que je me dis, du rugby à Miami, moi, ça, je ne vois pas du tout l'intérêt. Moi, j'ai l'impression quand même que le rugby surperforme déjà en France, fait des statistiques incroyables quand ils sont diffusés à la télé. C'est des chiffres monstrueux. Et je n'ai pas l'impression qu'on soit capable de faire beaucoup mieux par rapport à ça. Mais quand je vois les budgets, quand je vois les problèmes financiers que peuvent avoir les équipes du top 14, je me dis, il faut une évolution, il faut trouver une autre solution pour gagner plus d'argent, parce que quand t'as autant de déficits dans les clubs du top 14, c'est qu'il y a un problème de fond, donc il faut essayer de changer ça et trouver d'autres solutions. Et moi, je comprends Dupont. La carrière est courte. C'est une icône. Et il peut pas gérer ça comme il le veut. Moi, je viens d'un sport comme la NBA où concrètement les joueurs et les propriétaires se partagent 50% chacun des revenus. Donc à un moment, je pense que valoriser les joueurs qui font le spectacle, qui sont les acteurs de ce sport et qui font que justement c'est autant regardé, je trouve ça magnifique. Mais délocaliser et de se dire que ce sport qui est pratiqué pratiquement uniquement que dans le Sud-Ouest et qui compte seulement 10 nations ou à peu près qui jouent dans le monde et 4 qui peuvent gagner une Coupe du Monde, ben je me dis que les performances sont quand même assez fantastiques. Donc ça serait dommage de casser cet ancrage régional et cet ancrage du rugby. Mais en même temps, je comprends que les joueurs aient envie de gagner plus d'argent.
Il n'y a pas que le Sud-Ouest, hein, il y a aussi Paris, Lyon, il y a pas que
le Sud-Ouest, mais on regarde quand même le découpage, il y a quand même beaucoup de clubs dans le Sud-Ouest et un peu moins ailleurs.
Non, mais en tout cas, l'argument de Fred, c'est de dire que
les licenciés sont dans l'Île-de-France.
Peut-être pas les projets comme ils sont présentés comme cela, mais il faut qu'il y ait peut-être une réflexion sur le modèle rugby. C'est aussi ton avis, Fred Le Canut?
Oui, moi je pense que là où il peut y avoir révolution pour le rugby, c'est ce que Fred dit très justement, c'est dans cette capacité à le développer partout dans le monde. Il y a encore des espaces qui ne sont pas développés. Et là où je suis d'accord sur la volonté d'activer les choses, moi, je te prends l'exemple du judo, par exemple. On a beaucoup de pays, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, qui sont énormément développés cette année, enfin ces dernières années, pour amener des équipes compétitives avec des budgets dédiés, en s'appuyant notamment sur des pays annexes pour se développer. Ça, c'est un autre débat. Mais là où je suis un peu surpris, c'est qu'on va aller chercher des budgets dans des pays qui pourraient développer leurs propres équipes nationales ou développer leur structure au niveau national pour être dans le giron de... Bah, tu vois, aujourd'hui, là, on parle des Émirats Arabes Unis comme potentiel financeur. La révolution, ça serait qu'aujourd'hui, ces équipes-là existent dans un rendez-vous mondial. Ouais, c'est pas leur culture, mais ça serait ça la révolution. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire à amener de l'argent pour activer des gens qui sont déjà à très haut niveau? c'est sûr que ça va amener quelque chose, ça va amener une visibilité, mais ça va pas développer la pratique du rugby dans des pays où il y en a pas. Moi, la révolution, ça serait la capacité de le développer partout dans le monde. Or là où je suis mitigé sur le projet, c'est que regarde, Denis, il a déjà été contacté il y a quelques années par ces idées là de développer des ligues, et puis finalement tu sais pas trop d'où vient l'argent, comment c'est financé, et puis finalement ça n'a pas abouti. Donc,
mais non, mais pour moi ce sont des mercenaires.
Toi tu dis il faut pas faire de révolution.
Mais parce que ce sont des mercenaires, c'est des gens qui sont là pour l'argent, ils sont là pour faire de l'argent, pour vendre un produit comme à l'américaine.
Là, c'est part de la Super League. Hein,
c'est pas notre culture. Et moi, je cherchais des sous chez les Émirats pour monter un préfabriqué de rugby dans le monde en faisant des franchises à Lisbonne où c'est pas notre culture, à Madrid non plus. Je veux dire, alors je veux bien qu'on développe le rugby, mais pas en faisant du rugby un vrai cirque. Un vrai cirque. Pour moi, c'est du cirque. C'est pas du sport. C'est du spectacle, on va dire. C'est du spectacle à l'américaine. C'est un show, en fait. Quand tu fais des franchises comme ça, c'est pas notre culture dans le rugby. On est vraiment, on est dans les ancrages, nous. Dans les ancrages de...
Mais du coup, il faut pas évoluer du tout,
Faut pas évoluer. Ouais. Je dis que ça, pour moi, c'est contre la...
Pas ça, en tout cas.
C'est dénaturer le rugby, déjà. Pour moi, c'est l'inverse. Alors après, sur le salary cap, on en parlait, c'est autre chose. Pour moi, c'est un autre débat, le salary cap. Parce qu'en même temps, il a entièrement raison. Après, il va y avoir forcément des ajustements qui vont intervenir, qui vont arriver. On ne peut pas priver le joueur aujourd'hui, alors que le joueur fait le spectacle, fait le monde, fait venir le monde dans les stades, et est privé en même temps de recettes publicitaires qui devraient lui revenir.
Le modèle doit évoluer, en tout cas peut-être sur ce sujet-là.
Ah, moi, je le crois, oui.
Simon, toi tu es dans la team de Denis.
Oui,
pas touché au rugby.
Ben non, mais il est sympa, Mike Tindall, mais évidemment, il doit prendre un chèque énorme, évidemment.
C'est sur la Super League.
Et Wilfried l'a rappelé, il a cité même des villes aux États-Unis, il a cité des stades dans lesquels il n'y a jamais un match de rugby qui se déroule, rêver d'un universalisme pour le rugby comparable à celui du foot ou du soccer,
basket,
comme on l'appelle.
Du basket.
Ouais, mais même, moi, j'ai aucun problème, hein, tu sais. Je suis pas aussi aigri que toi, tu sais, Fred. Mais sans me vautrer dans les clichés absolument abjects relayés par Fred Weiss sur ce côté sport de pecno, sport de bouffeux.
C'est pas du tout ce que je dis.
C'est exactement ça.
À aucun moment.
Tu nous as dit il y a que dans le sud-ouest qu'on joue au rugby.
J'ai dit principalement dans le sud-ouest. Je suis désolé. Il suffit de regarder.
Alors, le grand sud-ouest, merci
pour le cliché. Merci pour Toulon. Merci pour Lyon. Merci pour les clubs parisiens.
Et pour
tous les gens qui adorent ce sport. Mais là où je rejoins Denis, c'est qu'il y a malgré tout un ancrage et culturellement, en effet, le rugby se pratique dans certains endroits du monde et dans certains pays. Et t'as tendance à te dire qu'il y a des endroits où ça prendra pas, où ça prendra jamais.
Ça prendra jamais.
Et
c'est quoi les aux États-Unis, hein.
C'est bon,
hein.
Ils essayent, ça marche pas.
Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que regarde, aujourd'hui, le Japon, par exemple, c'est une bonne équipe de rugby?
Non.
Eh ben, ils peuvent le devenir.
Bah, ils sont un peu devenus, quand même.
Ils sont devenus.
Mais non. Moi, je partage pas
trop.
C'est un mauvais exemple.
Ils aiment le rugby.
Moi, le Japon, par exemple. Ça m'a permis de plus regarder le rugby.
Oui, mais regarde.
Tu parles de culture. Moi, ma discipline, elle est d'origine japonaise. Quand j'ai vu des Japonais en rugby, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, ça s'ouvre à quelque chose. Et peut-être qu'ils seront jamais champions, mais en tout cas, ils sont pas mauvais.
Non, mais c'était génial. Oui, l'ouverture sur le Japon, je suis d'accord avec toi.
Et ce matin, moi, ce que je veux te dire par rapport à cette Ligue Pro, moi, d'une Ligue Pro pour faire que du business et que du spectacle, je ne suis pas d'accord. Par contre, si ça permet de développer en local des choses pour que les équipes
s'y créent,
ce projet-là, pourquoi il n'est pas bon. Par contre, qu'on puisse se développer pour que derrière, il y ait du développement local, oui.
Chef Templier, prends la parole.
Fred, il y a un championnat au Japon, il y a une équipe nationale au Japon, elle ne sera peut-être jamais championne du monde, mais il y a tellement d'équipes de foot nationales qui ne le seront jamais, et pourtant le foot existe dans ces pays. Ouais. Donc déjà il y a un sport implanté au Japon. Oui. On a du mal à le faire exister aux États-Unis parce que voilà, ils lancent des franchises mais ça a du mal à prendre.
On t'a du point
mais, l'exemple du Japon, il existe, Fred.
Les États-Unis c'est culturel aussi, c'est logique, ils ont voulu se démarquer justement de l'Angleterre en créant le football américain et c'est pas pour maintenant intégrer le rugby, c'est
oui, mais regarde le soccer aux États-Unis. C'est parti de très très loin.
Ouais, ça prend pas de fou non plus.
Ça prend pas, mais à son niveau, ça évolue quand même. Ça évolue. Aujourd'hui, t'as des stades pleins là-bas.
Mais ça ne représente rien en termes de sport aux États-Unis. Ça reprend pas.
Après, ça correspond aussi au fait qu'il y a une grande communauté hispanophone qui est très foot.
Et puis je suis désolé, les garçons, le rugby, vous avez qu'une vision avec les garçons justement. Mais il y a aussi toute la dimension féminine. Aujourd'hui, on en sort là de la Coupe du Monde chez les filles. avec des équipes très ancrées. L'Angleterre, tu avais le doute, toi, qui battent les Françaises, c'est très ancré.
Et, les Françaises, star, elles... et là où tu as raison, c'est qu'il y a une star américaine qui fait un tabac là-bas, une joueuse de rugby de l'équipe des
d'accord.
États-Unis.
Mmh. Ok.
Non, mais qui est une star aussi.
Et qui est une star qui arrive à développer.
Mais c'est du coup,
en gros, par les filles, peut-être que ça se développe un peu plus.
Mais peut-être,
dire,
que, peut-être pas, qu'il y aura des équipes féminines d'américaines qui vont être très, très fortes, ça va se développer. Non, mais c'est pas, en fait. Là, on est mono matricé dans nos têtes de dire, voilà, les équipes de France, le rugby, le Sud-Ouest, il peut y avoir des ouvertures. Et en Afrique, je suis sûr qu'il y a des joueurs, là, si tu mets un vrai projet en place, ça peut être extraordinaire.
Tiens, on a Juan qui nous appelle au 32-16, fan de rugby. Salut, Juan.
Oui, bonjour. Salut, alors, Juan. Salut, Juan. Surtout, joueur de foot et joueur de tennis.
Ouais.
Et en fait, je suis en train de voir que ils essaient de créer une Super League comme l'a développé Florentino Pérez, a essayé de l'imposer. Et je trouve ça complètement hallucinant, inadmissible. Alors, on parle des calendriers surchargés, etc. Les joueurs seront aussi.
Non, mais les joueurs, il faudra qu'ils fassent un choix.
Ils pourraient pas faire les voyages déjà.
Ils pourront pas faire les deux jouer sur les deux tableaux. Donc le calendrier t'oublie. Ils vont prendre les 300 meilleurs joueurs, enfin ou supposés meilleurs joueurs, et ils feront leur championnat.
Toi ta crainte elle est surtout sur le rugby amateur, je crois, Juan, non ?
Bah oui, quelque part en fait, moi je trouve que ça indirectement ça va jouer sur l'impact sur les jeunes, sur le développement régional aussi.
L'ancrage régional, on est d'accord.
L'identité.
Ah, l'identité régionale. C'est-à-dire qu'en fait. Le fait de diluer un peu tout ça dans des pays où il n'y a pas l'esprit rugby, parce que en fait le rugby c'est vraiment un état d'esprit. Quand on parle de rugby,
culturel,
au Sud-Ouest, il y a des clubs qui sont développés en région parisienne, c'est sûr, c'est très bien, mais tout ça ça vient du Sud-Ouest au départ, l'Angleterre, etc. Là maintenant développer ça sous une forme plus mondiale, c'est pour l'argent. Franchement, je pense que la passion des enfants va être un peu dilué.
Non, mais exactement, Juan, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose et je vais rebondir sur quelque chose de très intéressant qu'a dit Simon tout à l'heure. Non, mais est-ce que finalement la globalisation du rugby n'est pas une chimère? C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, parce que là on va aller chercher les nouveaux marchés et tout ça, est-ce que le rugby n'a pas vocation à être comme le cricket, je sais pas, par exemple, qui est seulement un certain
baseball? Mais c'est pas un problème en soi.
Ben non.
Il faut laisser le rugby comme il est aujourd'hui.
C'est quoi, le rugby ne doit pas se voir
Mais c'est pas ça, c'est trop que comme dit très bien Simon, il y a des territoires que tu pourras pas t'imposer dans certaines certains pays, c'est évident. Mmh. Mais on voit la difficulté aux États-Unis. Alors, ils ont mis une Coupe du Monde, la prochaine sera aux États-Unis.
Voilà, la prochaine sera en Australie,
celle d'après en 31. Mais voilà, on n'a aucune assurance. On sait que les ligues sont plantées, les franchises américaines sont plantées. Et c'est pas leur culture.
Tu sais pas, peut-être que quand il y aura la Coupe du Monde aux États-Unis, il y aura des milliers de personnes à l'aéroport. Hey, Denis Charvet, ouais. Parce que le rugby aura été un. Ce sera développé de dingue. Et ils verront le chef templier.
Non, ce sera pas la retraite en 31.
Ah, mais je serai là-bas.
Hyper sérieux. Si.
Par contre, toi aussi, tu seras à la retraite. Parce que vu comment t'es malade, là.
Wilfried, au commentaire de quel match ce week-end en tant que 14.
En plus, il commente. Castres Racing dans le Tarn, Fred, tu vois, dans le 81.
T'as pris la cortisone, voilà. Non, parce que ça, il va falloir.
Tous les matchs top 14, évidemment, à suivre sur RMC. Il y a notamment un alléchant UBB Lyon ce soir, demain soir, Bayonne Stade Toulousain.
Et cet après-midi, Montpellier-La Rochelle.
Montpellier-La Rochelle, évidemment.
Attention.
Donc, RMC, la radio du rugby, bien évidemment. Merci Wilfried. Dans quelques instants, on va aller sur les routes. Des championnats d'Europe de cyclisme. On y était avec Mariazé il y a quelques instants, mais on a Jérôme Pinault qui est sur place et qui prend le brassard de capitaine. Il veut nous parler de Paul Sexas, déjà un leader générationnel pour lui à 19 ans. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Avec Fred Le Canu, Simon Dutin, Denis Charvet et Fred Weiss. Vient-il du Sud-Ouest quand il vient de Limoges? Où est-ce que le Sud-Ouest s'arrête?
Alors, je suis marseillais apparemment.
C'est vrai.
Il est comme la vaisselle, Fred, il est fragile.
C'est vrai. On est en train de faire le profile de.
Vous êtes des profilers?
On est des profilers, tout simplement, en toute humilité. On verra tout à l'heure d'ailleurs si vous êtes au niveau avec les auditeurs dans les jeux du sport. Vous savez, vous pouvez participer avec vos GG en fin d'émission. C'est un quiz sportif. Aujourd'hui, remportez votre PC portable. possible. Altic, c'est Sports, la marque française. Pour participer au jeu et remporter votre PC, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez Sport, S-P-O-R-T, au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Le capitaine n'est pas en studio, et bien il est sur le terrain aujourd'hui.
RMC, Captain Pinot met le brassard.
Ah oui, vous avez bien entendu, Captain Pinot. Salut Jérôme.
Salut les copains.
Salut,
quelle pression.
Ouais, c'est ça, avec la musique toujours un peu.
C'est surtout qu'on n'est pas assez bon, donc on a été obligé de demander à un autre capitaine. C'est ça qui nous attriste un petit peu.
En l'occurrence, pour parler de cyclisme, valait mieux, Fred.
Eh ben non, Fred Le Canu est spécialiste du cyclisme.
Je me demandais si vous alliez avoir un moment de lucidité où vous vous en rendez compte. Il n'a rien qu'à réaliser. C'est le truc horrible. Jérôme à distance, donc il met le brassard de capitaine. GG, tu es dans la Drôme et l'Ardèche pour les championnats d'Europe de cyclisme sur route qu'on va suivre ce week-end sur RMC. Avec Maria, elle était avec nous tout à l'heure. Il y a la course en ligne féminine aujourd'hui, les garçons demain. Christophe Cessieux également, tu voulais prendre le brassard aujourd'hui parce que il y a un garçon dont tu veux parler, c'est Paul Seixas. Il a 19 ans, c'est déjà lui notre leader du cyclisme français, Jérôme.
Bah selon moi, oui. Hier, j'étais gare de Lyon, sous la pluie, avec un peu de froid. J'ai pris la direction de Valence dans le train de Barcelone. Alors, j'ai cru d'abord, en arrivant sur place, que j'étais en Espagne. Non, je suis bien dans la Drôme. Mais j'étais assez excité à l'idée de rencontrer le phénomène, celui que nous présente, bah, comme le futur très grand demain, celui qui a eu seulement 19 ans le 26 septembre dernier, Paul Seixas. Et figure-toi que dans cette salle de presse, pour assister à la conférence de l'équipe de France, Thomas Vauclair a présenté son équipe. Et la première question... pour un coureur est arrivé pour qui? Bah tout simplement pour lui, Paul Seixas, parce que tout le monde est en émerveillement devant ce garçon. Ce garçon qui a fini 13e des derniers championnats du monde en Afrique. Alors tout le monde dira que 13e, oui, sauf qu'il a 19 ans. Moi, 19 ans, et tous les grands coureurs passés de ma génération, ils étaient plutôt boulot, plutôt en junior, et ont commencé juste à apprendre la cuisson des pâtes. Lui, il est déjà avec les tout meilleurs. C'est-à-dire que quand Tadej Pogacar a attaqué, il a eu les coronas d'y aller. Il a accompagné Ayuso, qui est présenté aussi comme un très très grand demain. Paul Seixas, c'est un phénomène. J'ai pu m'entretenir avec Thomas Vauclair, discuter avec Thomas, et Thomas me disait tout simplement, il a tout. Il a une maturité incroyable. Il est concentré. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il veut aller. Et la pression lui coule dessus. On a eu cette discussion lors d'un podcast Grand Plateau il y a 15 jours. Paul, est-il fait pour avoir les épaules? Et surtout, doit-on lui mettre la pression? Mais en fait, on s'est tous dit la même chose. C'est que avoir la pression pour un énorme champion qu'il est, c'est soit il l'accepte et il vit avec, soit il ne sera jamais le grand champion. On a la réponse, ça lui glisse dessus. J'ai eu une longue discussion avec Pavel Sivakov, et qui lui vit au quotidien avec Tadej Pogacar, l'autre, le grand phénomène du cyclisme actuel. Il me dit, c'est pas les mêmes garçons, mais il y a des similitudes. Ça leur glisse dessus. Il se lève le matin avec une pression monstre sur les épaules, mais on a l'impression qu'il va faire un baby avec ses potes. Paul Seixas, 19 ans, est capable de supporter cette pression-là. D'ailleurs, il ne se cache pas. Pour dimanche, il y a les Pogacar, Vingegaard et Remco. Mais lui, il a pas peur. Lui, il se dit que c'est possible. Il sait que sur les 200 premiers kilomètres à Kigali, il a été capable de les suivre. Et il va prendre ses responsabilités. Alors oui, c'est le leader de l'équipe de France. Oui, il doit endosser très vite ce costume-là. Alors leader sur la course, peut-être pas dès dimanche, mais leader et locomotive de notre futur cyclisme et notre cyclisme de demain. L'équipe qui doit l'accompagner, ce phénomène-là, sur les prochaines années. Moi, j'y crois. Très honnêtement, j'ai discuté avec l'ensemble de ses coéquipiers hier après-midi. Ils sont tous épatés par le phénomène Seixas, par le côté très décontracté et à la fois ultra performant. Pour avoir eu quelques confidences des coureurs, aller à l'entraînement avec Paul Seixas, il faut déjà être bien chaud et être prêt à aller à l'entraînement parce que ça roule très très vite. Et donc c'est vraiment signe que ce garçon-là est un phénomène et il doit être évidemment mis en avant. Alors supporter, mettre la pression peut-être, mais en tout cas, on ne doit pas avoir peur de s'enflammer avec ce garçon qui nous prédit un superbe avenir dans le cyclisme français.
Captain Pinot, n'ayons pas peur de nous enflammer avec Paul Seixas, 19 ans, peut-être déjà leader de ce cyclisme français, en tout cas la course en ligne masculine que l'on va suivre sur RMC, les championnats d'Europe, en Drôme et en Ardèche. Denis.
Non, mais est-ce qu'on peut le comparer à Bernard Hinault, par exemple, Jérôme? Non, mais je dis ça parce qu'il était très mature, très jeune. Il est à 19 ans, 20 ans, mais Hinault, il gagnait déjà.
Ouais, il gagnait, mais Bernard Hinault était dans un cyclisme d'une autre époque. Alors moi, je suis de ceux qui ne comparent jamais les époques, mais qui respectent énormément le passé. Bernard était un phénomène, et on espère que Paul sera de cela. Oui, il est dans la lignée de tout cela. Il faut savoir que Paul Sexas, Denis, en ayant gagné le championnat du monde de chrono l'an dernier, et en ayant déjà fait huitième du Dauphiné cette année, il a offert une victoire chez les professionnels à un de ses coéquipiers, Nicolas Prudhomme, présent aussi dimanche. C'est un garçon qui, dans le cyclisme moderne, est en avance sur tous les autres. Il est en avance sur Tadej Pogacar, il est en avance sur Remco Evenepoel. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner plus tard ? J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, dans les temps de passage, il est déjà en avance sur tous les autres.
Jérôme, j'avais une question sur son profil suite au championnat du monde. Tu dis que la pression, ça glisse sur lui. Est-ce que t'es d'accord pour dire qu'on a aussi découvert un garçon avec de l'endurance mentale ? Parce que j'ai vraiment vu un physique, gars qui est physique, mais dans la tronche, tu sens qu'il est dans la résilience, dans la souffrance, qu'il lâche pas le morceau. Est-ce que ça aussi, c'est un... Alors, pour faire le parler avec Bernard Hinault, je sais pas si on peut, mais en tout cas, dans cette résilience mentale, dans le fait de rien lâcher, est-ce que c'est pas là aussi on l'a découvert un peu plus pour le Grand Prix ?
On vous rappelle qu'il avait jamais couru une course aussi longue, hein, à 1h30.
Il n'avait jamais fait plus de 210 km en course.
Jérôme,
ouais. 50 km de plus, jamais plus de 210 km. Écoute, Fred, on aurait dû faire un son hier et je te l'aurais balancé. La question a été posée à Paul, comment as-tu récupéré ? Et Thomas lui dit, ouais, parce que là, il a récupéré quelque chose dimanche dernier qui était beaucoup plus qu'une course de vélo. C'est dire si l'état de fatigue du peloton sur la ligne d'arrivée à Kigali était incroyable. Et Paul a dit, j'ai fini la course, je me suis accroché jusqu'au bout, les 40 derniers kilomètres c'était dans la tête, mais j'ai eu une semaine pour récupérer, j'ai pas beaucoup couru, je me suis senti vraiment bien cette semaine. Voilà, le mec il est quelqu'un qui
est passé à autre chose déjà.
Exactement, et il est déjà dans la tête au championnat d'Europe. Le championnat du monde s'est passé, il a été déçu de son chrono, je pense qu'il s'est aperçu évidemment qu'il lui manquait encore de la puissance, et heureusement, il a que 19 ans, même pas 18 ans, il a eu 19 ans il y a 15 jours, donc c'est tout récent, et il s'est aperçu qu'il manquait de watts, mais par contre il a compris dimanche dernier qu'on pouvait pas attendre mieux, moins bien de lui que de faire partie des tout meilleurs, parce que 13e sur la ligne, c'est peut-être anecdotique cette 13e place, mais c'est surtout qu'il a jamais rien lâché et que jusqu'au 210e il était avec les meilleurs.
C'est là où je veux en venir, c'est les watts, ça peut se construire, la tronche c'est plus difficile et il a déjà le plus dur.
Et puis surtout il a fini lui, mais il y a beaucoup qui a abandonné.
Bah, ils ont fini 18% du peloton qui ont terminé. 18% du peloton désengagé.
Ça va dans le sens de ce que dit Fred Le Canut, effectivement. Hein. Ça montre qu'il a peut-être plus de résistance mentale que les autres. Capitaine Pinot, excellent. Il a même enquêté, hein, vous avez entendu, en allant interviewer les uns et les autres. Premier capitaine sur le terrain de l'histoire des grandes gueules du sport. À jamais le premier. Jérôme Pinot, qui nous dit n'ayons pas peur de nous enflammer avec Paul Sexas, Simon et Fred.
Moi, je suis ravi de m'enflammer. Je suis très content. Enfin, on ne met pas des athlètes dans du coton, enfin on les met en avant, et quand on me dit il faut les économiser par rapport à la pression, etc., ben c'est des bêtises, parce que c'est des athlètes qui sont construits différemment, qui ont cette capacité à se transcender dans les moments où ils sont sous pression, et de toute façon la pression elle va venir parce que tout le monde a des attentes sur lui, donc forcément le plus tôt possible, le plus tôt il l'encaisse, le plus tôt il sera meilleur. Donc moi je pense à Victor Wembanyama par exemple. Dès le début on lui a mis une énorme pression, dès le début on a dit c'était l'élu. Alors oui, il a eu des blessures, mais il a souvent ou quasiment tout le temps répondu à ces attaques-là. Mais c'est des mecs qui sont pas construits comme nous.
Mais
c'est
attends, des mecs, Fred, qui ont besoin de ça. Toi aussi on t'a vendu comme l'élu.
Mais ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui sont capables de.
Il rigole, Simon.
Où veux-tu en venir, genre.
Mais
dans la gestion de ça, en fait.
C'est vrai. Et il y a des gens qui sont capables de passer outre ça. Et des gens qui sont pas capables. Et je pense que ce garçon-là.
Et les gens capables de passer, Fred, sont les exceptions.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est des élus, parce que ils sont des exceptions déjà. À ce jeune âge.
Simon, il ne faut pas le mettre dans le papier bulle et le protéger, Paul Sexas.
Ah non,
il vient
non,
de fêter
non.
ses 19 ans, je rappelle. Hein.
Mais non, il faut libérer la bête, évidemment. On a envie de le voir. On a vu qu'il a une tête bien faite. Il est en effet préparé à ça. Et là, je rejoins Fred, comme les Wemby, comme un Kylian Mbappé en son temps.
Ils sont programmés.
C'est une nouvelle génération. Voilà, ils sont bien entourés.
Des champions programmés, comme l'était Hino. On a annoncé Hino. Il est arrivé derrière.
Ils n'ont pas peur d'assumer leurs ambitions. Et voilà.
C'est ce qui fait la différence.
Ils ne fuient pas.
Grand champion et champion.
Les objectifs. Moi, je n'ai pas. Jérôme nous le vend comme un phénomène et en effet on lui fait confiance. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il est la figure de proue, la tête de gondole d'un cyclisme français qui est, j'ai l'impression, et là Jérôme tu vas peut-être me contredire, mais
totalement décomplexé, parce que on parle beaucoup de Paul Seixas, mais il y a le petit Léo Bizio qui a gagné comme un vétéran autour de Burgos, il fait podium cette année.
Il y a Paul Magnier
on a eu dans grand plateau
Magnier, au Basse-Marsfeld, Paul Magnier, bien sûr.
Et moi c'est ça qui m'excite autour de Paul Seixas, c'est que c'est pas un feu de paille, c'est pas un jeune tu vois isolé, le phénomène qui serait sorti. J'ai l'impression qu'il est la vitrine d'un cyclisme français qui peut nous faire nourrir de grands espoirs à l'avenir, quoi.
Bah Simon, c'est exactement ce que tu dis, c'est un cyclisme qui n'a plus peur, qui n'a plus d'angoisse à prendre les départs des grandes compétitions et qui fait presque peur, même parce que hier Poggi alors fait beaucoup de communication, il est très bon aussi dans ce domaine-là, mais il a quand même parlé du collectif français. On a commencé à se dire que en France va falloir quand même se méfier dimanche des 8 coureurs quasiment, parce que c'est une équipe très forte et que c'est une nation avec des jeunes qui arrivent et comme tu l'as dit, des Sparsfeld, le petit Décomble qui a été vice-champion du monde la semaine dernière, on a une génération qui est forte, mais pourquoi ? Parce que on décomplexe, parce qu'on sait aussi qu'au sein de cette génération, on a un mec qui est annoncé comme un phénomène. Mais et Jérôme, ça tire le monde vers le haut, ça c'est une certitude.
Est-ce qu'il a la panoplie pour aller titiller Poggi tout sur le tour ?
Alors, à terme, oui, parce qu'il s'est grimpé très bien, puisqu'il a gagné le Tour de l'Avenir en étant à la fois dominateur.
La montagne.
Non, mais ça n'a rien à voir avec Alaphilippe, ça n'a rien à voir. C'est un pur grimpeur et en plus, il est champion du monde du chrono.
Il roule,
chez les juniors. Donc,
il s'est roulé. Ce qui est rare en France, les coureurs.
Ce qui est rare en France. Et on imagine bien, puisque ASO et l'organisateur du Tour s'étaient penchés sur un parcours pouvant avantager les qualités de Julien à une époque pour essayer de faire en sorte que Julien puisse éventuellement gagner le Tour. On s'imagine que lorsque Paul arrivera à maturité pour le Tour, c'est-à-dire il va y aller très vite sur le Tour de France.
Dessiner des tours pour Seixas.
Évidemment qu'on va y penser. Évidemment.
Philippe qui nous appelle au 32-16, fan de cyclisme. Salut Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe vindicative.
T'es pas d'accord avec le capitaine Pinot qui nous dit n'ayons pas peur de nous enflammer avec Seixas.
J'argumente. Déjà, je souhaiterais que Paul Seixas soit le phénomène annoncé.
Évidemment.
Il a 19 ans. Alors, sérieux, peut-être qu'il est déjà à bloc de sa physiologie, on n'en sait rien. Même lui-même ne doit pas le savoir. Après, vous avez des phénomènes qui sortent de nulle part. Moi, je suis désolé, Pogacar, quand il avait le même âge, il n'était pas annoncé comme un phénomène. Et par la magie, il est devenu un phénomène.
Il a gagné le Tour de l'Avenir.
Paul Seixas est excellent. Il est excellent. J'ai envie, enfin, parce que ça fait 40 ans qu'on me promet un successeur à Bernard Hinault et à Laurent Fignon, j'ai envie d'en voir un. J'ai envie de voir un Français gagner le Tour. Mais tant qu'il y aura des Pogacar, des Evenepoel et tout, il sera dans le top 10, voire dans le top 5, mais il ne gagnera jamais
les plus grandes
courses du monde.
Quand il aura l'âge actuel de Pogacar, Pogacar, il aura 31, 32 ans.
Oui,
donc il n'est pas interdit de penser qu'il pourra le.
Philippe, je pense qu'il y aura peut-être un autre Gugus qui sort de nulle part.
Ça sera peut-être lui aussi.
Il y a trop de traumatismes passés. En fait, on a trop perdu pour imaginer qu'on peut gagner sur le Tour de France, comme tu le disais.
On est tellement français. On est très français. Philippe, il reflète exactement la grande majorité des Français où on préfère se dire que c'est pas possible. Il y aura d'autres, des étrangers, des Gugus, comme dit Philippe, qui sortiront de nulle part. Ça veut tout redire aussi. On est quand même encore dans cette espèce de zone grise où on doute de tout.
Ce que tu me dis, c'est qu'il faut changer le logiciel. Il faut changer le logiciel.
Exactement. Et la presse, et nous, on doit accompagner ce changement-là aussi. On doit y croire. C'est pas dire je vais enfin jouer avec les autres. C'est pas être prétentieux, c'est être ambitieux.
Non, surtout,
et
Jérôme,
il en faut de l'ambition dans le sport.
Non, mais vous avez tous les arguments.
Mais bien sûr,
là, pour l'expliquer,
Philippe, où je le rejoins pas, c'est quand il dit on n'en sait rien s'il a de la marge. Mais évidemment que si, on sait. On sait qu'à 19 ans, il a ces datas-là, avec toutes les datas qu'on peut récupérer aujourd'hui et la projection qu'on a sur sa marge de progression, ses heures d'entraînement, les zones dans lesquelles il travaille, les nombres de jours de course et surtout la charge de travail annuelle qu'il effectue actuellement, c'est à peine plus qu'un junior traditionnel. Et il est déjà au meilleur niveau. Alors quand on bosse en vélo et qu'on vieillit et qu'on prend de la maturité, on progresse. J'ai jamais vu un athlète qui régresse à partir de 20 ans. Donc là, c'est une connerie. Les datas prouvent que le gars va progresser et on s'attend à ce qu'il atteigne ses très très bons niveaux très vite. C'est pour ça qu'on ne veut pas lui donner le temps. C'est que le très vite, il faut taper dedans parce que c'est maintenant, parce que Paul Sexas n'attendra pas. C'est un phénomène. Et comme le disait Fred tout à l'heure, les phénos comme Wembanyama, Kylian Mbappé, tu leur parles pas d'âge. C'est lui qui le dit. Et bien lui, il va être pareil.
Oh, le niveau du capitaine est impressionnant. Juste, on vient de parler de Paul Sexas. Il faudrait quand même qu'on l'entende. Ambitieux avant ces championnats d'Europe ?
C'est une course qui va être quand même différente des mondiaux. Les mondiaux étaient vraiment une course extrêmement dure. Bon, on l'a vu à la télé, en plus elle a été rendue très dure par l'adversité. Donc là, les Europes, c'est quand même bien plus court. Il n'y a pas les conditions qu'il y avait au mondial. Ça va être très différent. Et puis on a une équipe un peu différente avec des coureurs encore très solides. Donc on verra comment ça va se passer.
On verra comment ça va se passer.
Attention au Gugus hein, quand même.
On remercie Philippe de nous avoir appelé au 32-16. Tous derrière Paul Sexas, changeons le logiciel du cyclisme français. Oui, nous pouvons gagner, nous a dit l'excellent capitaine Pinot. Merci Jérôme.
Merci les garçons.
Merci, tout au long du week-end, course en ligne féminine aujourd'hui. On va suivre Juliette Labousse. Maria Azé nous l'a dit tout à l'heure. Et donc les garçons, demain, Paul Sexas face à Vingegaard, Pogacar, Evenepoel. C'est le All-Star Game sur les routes françaises de Drôme et d'Ardèche. Dans quelques instants, les amis, la Zapette, vous allez nous dire ce qu'il faut absolument suivre ce week-end. Vous allez nous préparer le programme pour les auditeurs. Tout simplement, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Dans un instant, avec Fred Veil, Simon Dutin, Denis Charvet, Fred Le Cagnu, on va ouvrir la porte du vestiaire. Aujourd'hui, la thématique, comment gérer la petite mort, alors que Gaël, mon fils, a annoncé sa retraite. La petite mort, c'est la retraite sportive. Simon nous expliquera notamment comment... un jour, il s'est dit, je ne ferai jamais le Masters d'Augusta.
Ça a été compliqué, Georges. On va en parler.
J'aurais jamais ma veste verte.
Non.
Terrible. Du coup, je vais m'acheter un costume.
J'en parle. J'en ai acheté une autre, mais non, celle d'Augusta, je n'aurai jamais, malheureusement.
Allez, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut suivre absolument ce week-end ?
RMC, la zapette des GG.
Denis Charvet n'arrête pas de regarder l'heure parce qu'il est impatient. Je lui passe la zapette tout de suite pour dire ce qu'il faut regarder.
C'est la finale du rugby championship. L'Australie qui reçoit la Nouvelle-Zélande et l'Argentine qui reçoit de notre côté cet après-midi l'Afrique du Sud à Twickenham.
Ouais, c'est une réception curieuse.
Et il y a encore un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'Afrique du Sud chute face à l'Argentine, ce qui est possible, et que dans le même temps, la Nouvelle-Zélande s'impose en Australie. Voir l'Australie qui gagne avec un point de bonus, c'est un peu difficile, mais bon, c'est plus la Nouvelle-Zélande qui est en concurrence avec l'Afrique du Sud, mais en tout cas un match énorme avec les Australiens qui sont revenus au plus haut niveau avec des joueurs magnifiques, un paquet d'avant qui maintenant résiste à toutes les autres nations et qui en vue de la Coupe du Monde en 2027 chez elle fait figure maintenant d'un peu d'épouvantail. Donc c'est à suivre vraiment face à une équipe néo-zélandaise qui doute, qui est en plein doute avec un sélectionneur qui est un peu chahuté en ce moment.
Scott Robertson.
Mais bon, voilà, il me tarde de voir ce match, parce que ça va être bien.
11h45 pour Australie, Nouvelle-Zélande. Je passe la zapette à Fred Le Cagnu. Qu'est-ce qu'il faut absolument écouter, voir
pour J'aurais jamais pensé vous le dire, et je suis conquis, c'est de la Formule 1.
Ah oui.
Et c'est de la Formule 1 parce que j'ai découvert, grâce à vous, obligé de travailler, et voilà, et je me rends compte qu'il y a la 18e étape ce week-end, ça sera à Singapour. Il y en a 24 en tout, et c'est le tournant du match, les amis, parce que dimanche, 14h, ne loupez pas Singapour, le retour de Verstappen qui a réalisé deux grandes performances et vous n'aurez pas perdu non plus le fil hein, sur des surfaces qui étaient plutôt dans l'adhérence, dans tout ça, voilà. Et là ça sera pas du tout le cas, donc est-ce qu'ils vont réussir à se réadapter, est-ce qu'ils vont réussir avec Verstappen à trouver les solutions pour pouvoir à nouveau avoir une forte adhérence, puisqu'on se rappelle que les deux où il y a eu forte adhérence, bah, il s'est planté hein, ça n'a pas été un grand succès pour lui. Donc voilà, c'est le tournant du match, parce que si ça passe là, eh ben, il peut encore être champion du monde. Si ça passe pas, ça va être dur. Il a fait troisième aux essais libres, c'est Piastri qui a fait premier, donc voilà, ça va être passionnant. Il a 157 points vers Verstappen. Piastri en a 234. C'est le tournant du match. Il a dit qu'il avait 50% de chance d'être champion du monde. Et ça se joue ce week-end, dimanche à 14h.
Qualif à 15h, assure avec Jean-Luc Roy, évidemment. The King au commentaire. La course demain à 14h. On va en parler de la Formule 1 demain. J'aime bien le fait qu'on a convaincu Fred Le Cagnu.
Ah oui, mais vraiment.
De la Formule 1, parce qu'il nous parle de surface, d'étape et de tournant du match.
Mais bien sûr,
étape,
le tournant du match. Mais je ne suis pas sûr que la Formule 1 est là. C'est l'œil du grand public.
Rien d'autre de magasin surtout.
Mais pas du tout, je suis passionné, je vous ai partagé cette passion. J'ai hâte.
Tu pourrais nous faire la Formule 1.
Mais non, pas du tout, c'est pas ça. 14h, sortie du repas dominical, je serai devant mon écran.
l'écran. Exactement,
à l'écoute d'RMC surtout.
Mais bien sûr,
est-ce que l'adhérence sera là pour Verstappen?
Mais j'en suis sûr.
Attention à la sortie de piste, Fred Weiss.
Alors j'ai envie de parler d'un sport qui compte quasiment 800 000 licenciés en France.
Le rugby?
Plus de 450 millions de pratiquants dans le monde. Et oui, il y a des matchs. Il y a des matchs NBA. La NBA nous a manqué parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu de match NBA. Il y a un match à Abu Dhabi qui affrontera les Sixers, qui verra s'affronter, pardon, les Sixers et les Knicks. Et dans les Knicks, il y a trois joueurs français, Paco Mladier, Mohamed Diawara et bien sûr le capitaine de l'équipe de France, Gershon Yabusele. Donc si vous avez envie de voir un sport pratiqué dans le monde, regardez. Et ne ratez pas ce match à 17h.
C'est diffusé parce que le
principe. C'est diffusé.
Il faut payer. Il faut payer.
Tu sais quoi, la formule pour l'instant.
Mais évidemment, on en parlera les débuts de Gershon Yabusele dans Basket Time, notamment votre podcast basket.
Très important, bien sûr.
Sur toutes les
encore une fois, un sport pratiqué dans le monde entier. 450 millions de pratiquants.
Simon Dutin, la zapette.
Bah, mon cher Georges, j'aurais pu te dire que j'avais envie de voir Juventus AC Milan, j'aurais pu te dire que j'avais envie de voir le Espagne-Brésil, troisième match de phase de poule du mondial U20.
C'est un peu moins.
Mais je vais orienter nos auditrices et nos auditeurs vers la demi-finale de Féfé et Lebrun.
Ah bah oui.
En demi-finale, et les China's Match, c'est l'équivalent d'un tournoi du Grand Chelem. Voilà, ça se passe en Chine, il a battu un Chinois en quart, il est face à un Chinois en demi-finale.
Lin Xidong, numéro 2 mondial.
Et alors ouais, ça s'annonce visiblement
ça va être chaud quand même.
Compliqué, il est injouable cette saison, le Lin Xidong. Mais voilà, on a envie d'y croire. On est un petit peu la maison du ping. Quand même.
Exactement.
C'est déjà une perte d'être en demi.
Bah oui, parce qu'il a une saison un peu plus difficile. Ouais. Félix Lebrun, double médaillé de bronze au JO.
Et on a envie de revoir une célébration. Voilà, elle a fait
Lebrun. Et il a fait une célébration en gagnant en quart de finale et genre, ouh, j'ai refroidi la salle.
À la triangle, j'ai climatisé la salle
de basket. Effectivement, Félix Lebrun. Et en plus, c'est à suivre sur RMC, sur Twitch. Évidemment, vous le savez. C'est la demi-finale, c'est à 6h du matin. Bah, en fait, du coup, demain matin, vous réveillez parce que vous avez écouté Simon. 6h, vous faites Félix Lebrun et ensuite, vous êtes réveillé, vous écoutez les grandes gueules du sport.
Dans 3 quarts d'heure, et on enchaîne avec la Formule 1, bien sûr.
7h, les matchs à Abu Dhabi pour voir des Français.
Et ensuite, on regardera si l'adhérence de Verstappen.
Mais adhérer à Verstappen, c'est le tournant du match.
On adhère.
Ah là là, j'aime bien. Vous savez, il y a un truc qui nous caractérise vraiment dans les grandes gueules du sport, c'est une certaine forme de bienveillance.
Oui.
Entre nous. Méchant. Et on va en parler dans quelques instants en ouvrant la porte du vestiaire. Comment gérer la petite mort? Tiens, vous avez tous une expérience à nous faire partager et on a hâte d'entendre tout cela. À tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC pour la dernière heure.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.